Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, Anastasie Tudiache et Anne Albertson avec vous. Au sommaire de ce mercredi 23 décembre 2015.
République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila en visite dans le sud Kivu.
Alors qu'au Congo, au Congo-Brazzaville voisin, le président Sassou Nguesso avance la date des élections.
Au Kenya, un groupe de musulmans protège un groupe de chrétiens dans une attaque de Shebab.
La Syrie est au cœur des préoccupations du Conseil de sécurité de l'ONU qui a voté hier une résolution pour la livraison de vivres et de médicaments.
Et en Europe, les chiffres records de la crise des migrants.
À venir, l'économie et le sport, mais tout de suite, c'est le journal.
Après les villes de Goma, Beni et Butembo, dans la partie est de la RDC, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, est arrivé au sud Kivu hier. Objectif, prendre le pouls sécuritaire de la région. Reportage de notre correspondant à Bukavu, Ernest Mouero.
C'est une foule constituée des cadres et militants des partis politiques de la majorité présidentielle, des mandataires publics, des femmes et jeunes universitaires qui sont venus accueillir les présidents de la République à l'aéroport de Kavumu. À 13h20, l'avion atterrit à Kavumu et le président Joseph Kabila Kabange est aussitôt accueilli en premier par le gouverneur Marcelin Tshishambo avant de saluer l'honorabilité de la province représentée sur les tarmacs. Des chaudes poignées de main sont échangées dans une communion entre le chef de l'État et les militants des partis qui soutiennent le raïs. Aussitôt, c'est le départ en véhicule pour le chef-lieu de la province du Sud Kivu, la ville de Bukavu. À la place de l'indépendance, tout comme dans d'autres lieux le long du parcours, d'autres militants drapeaux en main ont fait les déplacements pour témoigner leur attachement au chef de l'État. L'objet de la mission du président de la République n'a pas été révélé à la presse, mais selon des sources proches du protocole d'État, le chef de l'État séjourne à Bukavu dans le cadre d'une mission de travail. À la résidence du gouverneur du Sud Kivu, le président Joseph Kabila Kabange a personnellement présidé le conseil provincial de sécurité élargi aux ministres provinciaux. Une occasion pour les raïs de prendre le pouls sécuritaire de la province, mais rien n'a filtré de ces échanges. Aussitôt après, dans une ambiance de convivialité, les raïs s'est entretenu brièvement avec le député provincial, occasion aussi de marquer son passage par quelques photos souvenirs.
C'était Ernest Mouero à Bukavu.
Un groupe de musulmans du Kenya voyageant à bord d'un bus attaqué par des chebabs somaliens ont protégé les passagers chrétiens malgré les menaces des islamistes. Chérubin Dorsil.
Selon des témoins, certains des musulmans dans le bus ont donné des turbans aux non-musulmans pour cacher leur identité. Ils se sont rappelés probablement une attaque similaire l'an dernier dans la même région lorsque les combattants d'Al-Shabaab ont tué 28 passagers sortis d'un bus. Les 28 n'étaient pas musulmans. Cette nouvelle attaque, survenue lundi dans le nord du Kenya, a fait 2 morts par balle. Cependant, face à la démonstration d'unité des passagers qui ont refusé de former 2 groupes suivant leur appartenance religieuse, les militants ont finalement abandonné leur assaut. Nous félicitons les musulmans qui ont défendu et protégé les chrétiens durant cette attaque. Ils ont démontré aux terroristes qu'ils ne peuvent pas se servir de la religion pour nous diviser, a déclaré le secrétaire à l'intérieur du gouvernement kenyan, Joseph Nkesri. Le Kenya, qui est intervenu militairement contre les chebabs somaliens depuis 2011, a subi des actes de représailles. Les islamistes jurent de poursuivre leurs attaques tant que Nairobi n'aura pas retiré ses troupes.
Des mois après leur guérison, les survivants d'Ebola souffrent fréquemment de troubles visuels, pouvant aller jusqu'à la cécité, de problèmes auditifs et de douleurs articulaires, selon une étude qui évalue pour la première fois la gravité des séquelles laissées par le virus. Si le virus Ebola disparaît rapidement de la plupart des fluides corporels après la guérison, il peut subsister des sites sanctuaires dans les yeux ou les testicules, parfois jusqu'à 9 mois dans le sperme des survivants.
Et cette étude comporte tout de même quelques limites que les chercheurs soulignent eux-mêmes. L'absence de comparaison avec un groupe de patients non infectés par Ebola, la difficulté à mesurer les troubles auditifs faute de matériel adéquat et l'impossibilité de déterminer la durée des séquelles. En juin, le Liberia a annoncé le lancement d'une vaste étude sur 5 ans pour cerner les effets à long terme du virus. Provoquant fièvre, vomissements et diarrhée intense, Ebola a fait plus de 11 300 morts sur près de 29 000 cas recensés depuis décembre 2013, dont plus de 99% dans 3 pays voisins de l'ouest de l'Afrique, la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia.
Et Ebola toujours, 646 réfugiés ivoiriens, réfugiés au Libéria, ont regagné la Côte d'Ivoire dans le cadre de la reprise de l'opération de rapatriement volontaire, a annoncé hier le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés à Abidjan, qui précise que l'objectif est qu'avant la fin de l'année, 1500 réfugiés ivoiriens rentrent en Côte d'Ivoire. Environ 220 000 Ivoiriens se sont réfugiés au Libéria, fuyant la guerre civile de 2002 dans leur pays et le conflit post-électoral de 2011, qui a fait 3 000 morts. Beaucoup étaient sur le point de reprendre le chemin de la Côte d'Ivoire quand le gouvernement libérien a fermé ses frontières l'été 2014 pour freiner la progression de l'épidémie d'Ebola.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, le conflit syrien, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi à l'unanimité une résolution demandant à tous les belligérants de permettre une livraison urgente de vivres et de médicaments à 13,5 millions de personnes dont la situation ne cesse de se détériorer. Les précisons tout de suite de Michel Joseph.
Le Conseil a appelé en particulier le gouvernement syrien à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Il a étendu jusqu'au 10 janvier la livraison transfrontalière des produits de première nécessité aux civils en Syrie. Cette opération s'effectuait jusqu'ici à travers 4 postes frontaliers, 2 en Turquie, 1 en Irak, qui n'est pas utilisé, et un autre en Jordanie. Des plus de 13,5 millions de déplacés ayant besoin d'assistance en Syrie, 6,5 millions ont fui leur maison. 4,5 millions, y compris des réfugiés palestiniens, vivent dans des zones d'accès difficiles et près de 400 000 sont pris au piège dans des zones assiégées. Le Conseil de sécurité de l'ONU a accusé le groupe État islamique, le Front al-Nusra et d'autres groupes liés à Al-Qaïda d'entraver par des manœuvres délibérées la livraison de l'aide à plus de la moitié des personnes vivant dans les zones assiégées. L'adoption unanime de la résolution onusienne de mardi traduit le besoin urgent d'assistance à travers les lignes de front du conflit syrien, a déclaré l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Samantha Power.
Le nombre de migrants et de réfugiés en Europe a dépassé le cap du million en 2015. Pour l'OIM, il s'agit là du plus grand afflux de ce genre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Des détails avec Eddie Isango.
Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 1,5 million migrants d'Afrique et du Moyen-Orient sont arrivés sur les continents européens en empruntant, par terre et par mer, diverses voies irrégulières, soit les quadruples par rapport à 2014. Les porte-parole Joël Milman a expliqué à la VOA que c'était les résultats de plusieurs facteurs, à la fois dont les grands nombres, par exemple des réfugiés essentiellement syriens et irakiens, qui étaient dans des pays comme la Turquie, les Liban et la Jordanie. Les Syriens, dont le pays est déchiré depuis 5 ans par une guerre civile qui a fait plus de 200 000 morts et des millions de personnes déplacées, représentent la moitié de tous les migrants et réfugiés, suivis des ressortissants d'autres pays en conflit comme l'Afghanistan et l'Irak. Ils sont arrivés en masse en Grèce, en Bulgarie, en Italie, en Espagne, à Malte et à Chypre en 2015, dont une majorité écrasante, plus de 800 000, gagnant la Grèce par mer. Quelques 3 600 sont morts ou portés disparus pendant la très dangereuse traversée de la Méditerranée entre l'Afrique du Nord et l'Italie. Selon l'OIM, moins de 35 000 migrants, soit 3 % ont pu gagner par voie terrestre la Grèce et la Bulgarie à partir de la Turquie. L'OIM ne s'attend pas à une fin immédiate de la crise des migrants.
Le président iranien Hassan Rouhani devrait effectuer sa première visite au Vatican et y rencontrer le pape François mi-janvier, a indiqué le service de presse du Saint-Siège. Monsieur Rouhani, président modéré, élu en 2013, devait déjà être prévu se rendre le 14 novembre au Vatican lors d'une tournée qui devait l'emmener aussi en Italie et en France, mais les attentats du 13 novembre à Paris l'ont amené à annuler sa visite en Europe. La précédente visite officielle d'un président iranien au Vatican remonte à 1999, lorsque Mohamed Khatami était venu rencontrer Jean-Paul II. Il a ensuite assisté en 2005 aux obsèques du pape polonais. Il est interdit de se convertir au christianisme en Iran, mais la petite minorité de catholiques orientaux y jouit d'une plus grande liberté de culte que dans nombre d'États sunnites du Golfe.
Au Québec, la Cour d'appel a confirmé hier la validité de la loi sur l'aide médicale à mourir, entrée en vigueur le 10 décembre dans la province francophone et la première de ce type au Canada. Fruit d'un long débat de société, la loi encadre strictement l'assistance pour des personnes atteintes d'une maladie incurable et voulant abréger leur souffrance. Elle avait été adoptée en juin 2014 par l'Assemblée législative de la province.
Enfin, l'exécutif français entérine aujourd'hui son projet d'inscrire dans la Constitution le régime de l'état d'urgence pour faire face à la menace terroriste. Et ce, malgré les critiques de ses détracteurs qui le voient comme un projet attentatoire aux libertés individuelles. L'état d'urgence, un statut d'exception à l'état de droit, avec l'état de siège et l'état de guerre, a été décrété au lendemain des attentats du 13 novembre, revendiqués par le groupe État islamique et qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Voté à la quasi-unanimité du Parlement, il est prévu d'être appliqué en France jusqu'au 20 février et permet aux préfets, représentants de l'État, de faire procéder à des perquisitions, des assignations à résidence et des dissolutions d'associations sans en référer à l'autorité judiciaire.
Et tout de suite, c'est la Minute Éco avec vous, John Lyndon.
Malgré le plongeon des prix du pétrole qui a fait fondre les revenus du Nigeria, premier producteur du continent, Muhammadu Buhari s'est engagé à augmenter les dépenses d'environ 20% en présentant un budget de 28 milliards d'euros. Le président nigérien a précisé que 2 milliards d'euros seraient alloués aux infrastructures essentielles, comme l'énergie ou le logement, tandis que 900 millions d'euros iraient au transport. La Chine a octroyé une enveloppe de plus de 800 millions de dollars à la Côte d'Ivoire pour développer et réhabiliter son réseau électrique et à terme raccorder 500 localités, a annoncé mardi le premier ministre Daniel Kaplan-Duncan. Le coût global du projet est estimé à 853,6 millions de dollars pour une durée de 36 mois et l'État ivoirien participe à hauteur de 40,93 millions de dollars. La production nationale d'électricité est estimée à environ 2000 MW. Abidjan ambitionne atteindre le double d'ici 2020 pour satisfaire une demande toujours croissante. Le nouveau ministre des Finances sud-africain Bravin Gordhan, en poste depuis une semaine, a refusé lundi soir la renégociation d'un contrat entre la compagnie aérienne parapublique South African Airways et Airbus. Cette renégociation avait déjà été refusée par l'ancien ministre des Finances qui estimait que la transaction n'était pas viable financièrement. Sous tutelle du ministère des Finances, South African Airways emploie quelque 10 000 personnes et survit grâce à des prêts garantis par l'État.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au sport. Bonjour Nicolas Pinault.
Bonjour Anastasie.
Tout d'abord, suspension provisoire pour Pol Pot en Jordanie.
La Fédération jordanienne de football a pris cette décision après la demande d'arrestation immédiate de la justice belge à l'encontre de l'ancien sélectionneur du Burkina Faso. Les Jordaniens savaient que des nuages judiciaires planaient au-dessus de la tête du technicien belge en l'engageant en juillet dernier. Mis en cause dans une affaire de corruption et de trucage de matchs entre 2004 et 2006, Pol Pot a été suspendu donc par la fédération jordanienne. Les instances jordaniennes du football ont pris cette décision dans l'attente, je cite, de clarification du statut légal de Pol Pot.
Oui, et puis Pape Diouf qui apporte du soutien à Lamine Diack.
L'ancien président de Marseille, Pape Diouf, s'est dit très peiné par l'affaire Lamine Diack, qu'il considère comme un véritable coup de tonnerre. On l'écoute au micro de notre correspondant à Dakar, Amdine Sy.
Il est évident, je dirais, que dans cette affaire, il doit y avoir de la maladresse, il doit y avoir de la précipitation. Quand on connaît Lamine, bon, c'est plutôt un homme qui a toujours fait preuve d'intégrité. Qu'il se soit laissé aller dans une telle mascarade et qu'il soit aujourd'hui au griffe de la justice, c'est vrai que cela ne peut que surprendre ceux qui le connaissent et attrister en tout cas ceux qui l'aiment bien. Cette mise sur la place publique des propos tenus par Lamine Diack lors de sa garde à vue sur procès verbal ont constitué, je le redis, un véritable tonnerre. Cela a donné évidemment à l'affaire une nouvelle dimension, puisque jusqu'ici, beaucoup de gens pensaient à la machination, beaucoup de gens pensaient qu'il y avait sans doute une voie de sortie pour Lamine. Mais ces déclarations-là ont eu plutôt tendance, je dirais, à l'enserrer, à en faire un coupable, et ça, on peut effectivement le regretter.
Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Enfin, Anastasie, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain. la nuit dernière.
Les Grizzlies ont gagné face aux 76ers, 104 points à 90, alors que les Pistons se sont débarrassés difficilement des Heat, score très serré, 93 à 92. Pour les Raptors, la victoire est nette face aux Mavericks, 103 à 99. Et enfin, les Lakers face aux Nuggets ont remporté le match, 111 à 107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech avec vous et tout de suite les dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a annoncé dans un discours devant l'Assemblée nationale que l'élection présidentielle aura lieu dans le courant du premier trimestre 2016. L'opposition congolaise a réagi diversement, comme l'a constaté notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Denis Sassou Nguesso met fin au suspense qui a suivi l'adoption le 25 octobre dernier de la nouvelle constitution. Il a décidé d'écourter son mandat présidentiel qui courait jusqu'au 31 août 2016.
Le Conseil des ministres sera rapidement amené à convoquer le corps électoral plus tôt que prévu afin que l'élection présidentielle se tienne dans le courant du premier trimestre de l'année 2016. Tout a déjà été dit sur la gouvernance électorale. Il ne resterait plus qu'à mettre en œuvre avec rigueur et un suivi conséquent les recommandations ou les décisions issues des différents dialogues et concertations.
Pour Juste Bernadet Gavé, le numéro 1 de la jeunesse du parti au pouvoir, PCT, l'annonce du président éclaire désormais la veline politique du Congo.
En annonçant l'élection présidentielle au cours du premier trimestre 2016, nous pensons que le président de la République ne répond qu'à cet impératif de pouvoir installer les institutions de la Nouvelle République en commençant par la première et la plus importante qui est le président de la République. Mais il s'agit en rien d'écourter un mandat parce que lorsque nous lisons que ce soit les dispositions de l'ancienne constitution ou même les dispositions de la nouvelle constitution, il est clairement dit que l'élection a lieu au plus tard. Ça veut dire qu'il y a un délai qui est un délai à ne pas dépasser. Mais ce délai peut être ramené un peu plus en avance.
Un avis que ne partage pas Jean Itadi, le président du Congrès africain pour le progrès, parti de l'opposition, qui constate tout simplement l'illégalité de Denis Sassou Nguesso.
Alors que ceci ne concerne que 10 jours, 20 jours, 30 jours ou un trimestre, ça ne change rien au fait que dans cette période, le chef d'État n'a pas la légitimité pour gouverner le Congo en tant que chef d'État, puisqu'il n'est pas élu dans le cadre de la nouvelle constitution. Mais la vérité, s'il faut aller aux élections au premier trimestre 2016, c'est pour profiter de la gouvernance électorale calamiteuse actuelle, celle qui a permis des élections faussées, des élus qui ne le sont pas, et des constitutions qui n'ont pas été élues.
S'agissant de l'élection présidentielle, la société civile attend toujours d'être associée à la réforme de la loi électorale. Trésor Ndila Kende est le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
Le ministre de l'Intérieur a organisé quelle rencontre avec toutes les parties prenantes? À quel moment le ministre de l'Intérieur a organisé cette rencontre qui dit que tout le monde est d'accord pour participer à l'élaboration de cette loi? C'est pas évident. C'est une communication pour l'extérieur du pays, pour dire que le président de la République est ouvert.
Très bientôt, un décret présidentiel pris en Conseil des ministres fixera l'opinion sur la date exacte de cette élection présidentielle. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Les Centrafricains élisent leur futur président le 27 décembre prochain et la diaspora ne sera pas en marge de cet événement qui constitue un tournant décisif dans l'histoire du pays. À Lomé, par exemple, la campagne électorale bat son plein et hier, la branche togolaise de la jeunesse du mouvement de libération du peuple centrafricain a organisé un meeting pour promouvoir son candidat Martin Zigele. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Ils seront environ 300 Centrafricains résidant au Togo à aller voter le dimanche 27 décembre prochain au consulat de la Centrafrique à Lomé. C'est une première pour la diaspora centrafricaine au Togo. Ce droit de vote est perçu par ces citoyens centrafricains non seulement comme un signe de considération, mais également comme un pas vers la réconciliation. Boris Laobaï est le président de la branche togolaise de la jeunesse du mouvement de libération du peuple centrafricain.
Cette première fois pour nous représente beaucoup. La réconciliation ne se fait pas seulement qu'au niveau de ceux qui sont au pays. Il faudra retrouver tous les autres fils et filles du pays à l'intérieur, la diaspora, les rassembler. Et cette élection nous permet de nous rassembler. Donc pour nous, la réconciliation viendra. La réconciliation y est déjà. Si nous, de la diaspora, nous sommes déjà réconciliés, nous sommes appelés, nous, à reconstruire le pays.
Pour reconstruire ce pays ravagé par des coups d'État et rébellions à répétition, la guerre contre l'impunité doit sonner un nouveau départ, estime Priska Kerekping.
Ce que j'attends de notre futur président, il faut qu'il prenne conscience de ce que le peuple centrafricain a subi. Le problème de l'impunité qui règne dans le pays, il faut que ça cesse. C'est le moment, il faut que ça cesse. Et j'implore le président qui sera élu de mettre en place ce programme pour que l'impunité change. Parce que c'est ce qui fait qu'à chaque fois, notre pays tombe toujours dans les rébellions. Et c'est ce qui persiste.
Pour Boris Guissima, la première étape serait de redorer le blason des forces armées centrafricaines.
J'attends beaucoup de ce futur président. Et dans un premier temps, c'est le réarmement des forces armées centrafricaines. Ça veut dire les FACA. La République centrafricaine a 16 préfectures. Chaque préfecture devait avoir son état-major et essayer de contrôler toute l'étendue du territoire de la République centrafricaine. Et dans ce sens, nos frères musulmans ne vont pas se plaindre depuis un délai pour dire que non, le pouvoir les a abandonnés, non, que le pays se trouve au niveau du capital.
Avec une population composée à plus de 60% de jeunes, le futur président centrafricain ne peut gouverner sans la jeunesse, conseille Romero Chrislin Angoa.
Le nouveau président a vraiment un grand travail à faire. Il faut qu'on occupe la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui a été utilisée comme instrument de violence pour détruire le pays. Il faut que cette jeunesse-là soit bien gérée. Créer des infrastructures pour la jeunesse, créer des centres culturels pour la jeunesse. Parce que si la jeunesse est occupée, elle n'aura pas le temps d'aller détruire, elle n'aura pas le temps de faire la violence.
Pour remettre la Centrafrique sur les rails, ce centrafricain propose que l'agriculture ne soit plus ignorée au profit des richesses du sous-sol.
La République centrafricaine, on a notre terre qui est très fertile. Et la politique actuellement essaie de bannir notre sol et regarder dans notre sous-sol. Et c'est ce qui amène souvent des problèmes dans ce pays. Si M. Patassé était chassé du pouvoir, c'est à cause de notre sous-sol. M. Bozézé était venu au pouvoir, il était chassé encore, amené par les rébellions Séléka. C'était à cause de notre sous-sol. Mais moi, la vision que j'ai, c'est essayer de développer le sol qu'on a pour travailler le sol. Si je parle de travailler le sol, je parle de l'agriculture.
Ils sont tous unanimes à vouloir une nouvelle Centrafrique caractérisée par la paix, la réconciliation et la relance de l'économie pour un mieux-être des citoyens centrafricains. Kaylosson Lomé, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, deux thèmes au menu. Rwanda, Paul Kagame risque-t-il de compromettre son bilan s'il se maintient au pouvoir au-delà des limites du mandat présidentiel? Et République centrafricaine, les élections seront-elles déterminantes pour un retour à la paix? Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Les troupes nigérianes et camerounaises ont, ces deux derniers mois, libéré de nombreux otages dans leur offensive contre les islamistes de Boko Haram. Nombre de ces personnes vivent dans un camp de transit près de Kolofa, dans l'extrême nord du Cameroun. Reportage Moki Edwin Kinzeka, récit Lionel Gaïma.
Bourrasque Palais, le camp de Sabongari, petit village frontalier proche de la ville camerounaise de Kolofata. La structure accueille actuellement plus de 800 réfugiés et déplacés ayant fui Boko Haram. Parmi eux, Madame Dada Aminatou, cette Nigériane de 56 ans, a quitté son village de Banki à moins de 20 km du camp lors d'une offensive de militaires camerounais. Les militants de Boko Haram ne voulaient pas laisser partir les habitants du village, dit-elle. Ils ont arraché leurs biens et leurs bétail et amené les garçons dans leur camp dans la brousse. Dada Aminatou a expliqué que quelques habitants et elles se sont échappés durant les assauts répétés des soldats camerounais. Selon cette rescapée, les militants de Boko Haram se sont échappés et d'autres ont été tués ou arrêtés. Les villageois ont alors demandé aux militaires de les évacuer au Cameroun par crainte de représailles, affirme Madame Dada Aminatou. Certains villageois ont été tués dans le combat et les troupes camerounaises n'ont pas porté assistance aux blessés, a-t-elle déploré. À Kamangeti, un des commandants camerounais de Kolofata assure que les raids contre Boko Haram ont été un grand succès et se poursuivront jusqu'à l'élimination totale du groupe islamiste. Avec certitude, nous n'avons perdu aucun soldat ici. Nous avons tué de nombreux membres de Boko Haram. Pour le moment, nous contrôlons toute la région sans difficulté. La situation est très calme maintenant. Pour ce qui est du sort des anciens otages des islamistes nigérians, ils demeureront dans le camp de transit jusqu'à ce que leur village soit sécurisé, a indiqué l'officier camerounais, ajoutant que les négociations se poursuivent avec le gouvernement nigérian pour leur rapatriement. Pour l'heure, les autorités camerounaises et les organisations caritatives prennent soin de ces rescapés et beaucoup comptent demeurer sur place jusqu'à ce que la situation s'améliore dans leur pays d'origine.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Dans sa volonté de redynamiser ses activités, l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako organise depuis lundi 21 décembre 2015 les assises de la recherche dont le thème est « Une recherche de qualité pour un développement durable au Mali ». Modibo Dembélé s'est entretenu avec le professeur Issa Sako, vice-recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako sur les enjeux de la recherche scientifique au Mali.
Nous avons décidé d'organiser ce qu'on appelle les assises de la recherche à l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. L'objectif principal, c'est de faire déjà l'état de la recherche dans notre université et travailler sur les questions de gouvernance et d'assurance qualité de la recherche et de nous pencher sur les problèmes de financement et de partenariat pour pouvoir développer la recherche au sein de notre université.
Pourquoi la recherche scientifique traîne-t-elle le pas en Afrique, singulièrement au Mali?
Il y a un certain nombre de facteurs. Déjà, il y a la formation des chercheurs. Ça, c'est un gros problème. Il faut que les gens soient bien formés pour pouvoir faire de la recherche. Ensuite, il y a le problème de la gouvernance, c'est-à-dire quels sont les différents acteurs qui sont impliqués dans la recherche, quel doit être le rôle des uns et des autres. Et ensuite, le gros problème qui vient, c'est la question du financement.
Quel est le rôle crucial que les enseignants, les étudiants et les chercheurs pourront jouer dans la recherche scientifique?
En réalité, les enseignants doivent faire de la recherche, souvent à 60%, à 50%, à 40%. Mais chaque enseignant doit faire de la recherche. Il y a une catégorie aussi de chercheurs. Leur métier, c'est de faire de la recherche, mais ils doivent faire un peu d'enseignement. Et les étudiants, à partir d'un certain niveau, doivent être impliqués dans la recherche. C'est un certain nombre de travaux, de terrain qu'ils pourront faire sous le mentoring et le coaching des profs et des chercheurs qui sont en poste. La coordination de tout ça, le financement qui sont les problèmes cruciaux. Il y a un grand potentiel du développement de la recherche, mais il y a cette question importante de financement, de formation qu'il faut régler rapidement. Puisque la recherche, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour pouvoir faire avancer nos pays.
Que préconisez-vous pour encourager la recherche scientifique au Mali?
Déjà, nous commençons à identifier les forces, les faiblesses de la recherche. Nous les analysons, nous voyons les opportunités qu'on peut avoir et nous voyons maintenant concrètement comment transformer tout ça en action et mettre ça à la disposition de l'épanouissement de la recherche. Il faut identifier les partenaires, il faut voir les sources de financement, il faut voir comment on peut les mobiliser. Mais tout ça, pour que nous-mêmes, nous soyons des acteurs crédibles pour pouvoir mériter la confiance de ceux qui mettront de l'argent à la disposition de la recherche, que ce soit l'État malien, que ce soit d'autres partenaires.
Le professeur Issa Sako, vice-recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans R.
RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'était Le Monde aujourd'hui. Merci pour votre attention. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. À la console, Daryl Smith est avec vous pour la présentation. Anastasie Tudiesch, retrouvez VOA Afrique sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour l'info 24h sur 24. Très bonne journée à toutes et à tous. Restez sur VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui revient dans une heure.